Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, Christina Silvero pour vous présenter cette édition de notre podcast Escale. Notre invité est Karim Khatan, auteur palestinien et l'un des 10 finalistes de la 20e édition du prix des 5 continents de l'Organisation internationale de la francophonie pour son roman Le Palais des deux collines. Nous l'avons reçu dans nos studios lors de son passage à New York pour présenter son livre lors du printemps de la francophonie. Je lui ai d'abord demandé qu'est-ce que cela fait d'être un lauréat du prix des 5 continents.
Alors déjà, il faut savoir que c'était une énorme surprise. Quand on m'a appelé pour me l'annoncer, comme j'ai tendance à ne pas répondre au téléphone, surtout pour les numéros inconnus, j'ai failli ne pas répondre. Et quand on me l'a annoncé, vraiment, c'était... C'est un prix que je connais bien en tant que lecteur. Parce que souvent, chaque année, je regarde la liste des livres finalistes du prix des 5 continents de la francophonie, et puis j'essaye de les lire, parce que souvent, c'est une très belle sélection de livres que je trouve, de romans souvent que je trouve hyper intéressants, ou qui me sollicitent d'une manière ou d'une autre. Donc c'est souvent des lectures assez fortes. Donc j'étais absolument ravi, et je n'en croyais pas mes yeux, en fait, déjà d'être finaliste. Ça m'aurait... Enfin, j'étais vraiment heureux d'être finaliste, et puis d'être lauréat, ça a été... Une super expérience, surtout que ça permet un peu d'ouvrir le livre à un lectorat un peu plus divers, un peu plus international aussi, puisque le livre bénéficie quand même par l'OIF d'une présence ou d'une visibilité dans tous les pays francophones. Donc non, pour moi c'est une multiplication des lecteurs que je trouve super.
Et vous êtes d'origine palestinienne, c'est ça ?
Oui, ou palestinien.
Même, ou palestinien tout court. Ouais. Alors, comment se fait-il que vous avez écrit en français et qu'est-ce que ça vous apporte ? Qu'est-ce que ça signifie pour vous ?
C'est vrai que c'est une question toujours très vaste et à laquelle je réfléchis en permanence. Moi, je parle français, on va dire, en quelque sorte par accident. La Palestine étant une société plutôt anglophone, donc il n'y a pas une histoire installée, francophone, etc. Donc c'est vraiment un peu par accident. En tout cas, mes parents m'ont mis à l'école française, donc j'ai vraiment grandi en parlant le français. Et ça fait justement que la Palestine n'étant pas un pays francophone, quand j'écris en français, je n'ai pas un public palestinien. J'ai un public ailleurs. J'écris aussi en anglais, et là, pour le coup, j'ai un public palestinien, mais voilà, en écrivant Le Palais des Deux Collines, ce que je savais, c'est que ça n'allait pas forcément être lu en Palestine, mais ce serait lu dans des pays francophones, surtout alentour, donc au Liban, puis dans le Maghreb, et bon, en France et ailleurs. Donc ça fait que on pense toujours à qui va nous lire quand on écrit. Et là, il y avait vraiment la conscience un peu bizarre que j'écrivais un livre autour de la Palestine, qui ne va pas être lu par les Palestiniens. Donc ça me met dans une position d'écriture un peu inconfortable, mais c'est bien. Enfin, je trouve que c'est quelque chose qui pousse à chercher des solutions et faire des expérimentations littéraires. Donc c'est un peu aliénant, en même temps ça ouvre d'autres possibilités. Enfin, c'est dur et sympa en même temps d'écrire en français du coup.
Et du coup, ça permet aussi de passer un message particulier. Quel est le message que vous cherchez à faire passer en fait ?
En fait, je ne sais pas si ça fait passer un message, mais en tout cas, je suis très conscient que les gens qui me lisent ont peut-être par là accès à certaines images de la Palestine auxquelles ils n'auraient pas accès ailleurs. Moi, ce que je voulais explorer dans ce roman-là, donc dans Le Palais des Deux Collines, en fait, donc c'est un monologue et c'est une voix, donc le personnage principal est très en colère. Donc je voulais un peu explorer ce que peut permettre la colère, tout en proposant, disons, une image de la condition palestinienne à un temps donné. Et l'un des défis pendant l'écriture, parce que c'était en français, c'était de me dire « Ok, mais t'es pas obligé de faire de la pédagogie non plus. » Pas obligé d'expliquer, c'est pas grave si les choses sont pas forcées, c'est un roman après tout, t'es pas en train de faire un compte-rendu, tu n'es pas en train de témoigner, donc là où ça peut être incertain, là où ça peut ne pas être clair, c'est pas grave, ça fait partie de ta démarche. Mais comme c'est en français, j'avais toujours la tentation d'expliquer, enfin comme si j'étais un peu, alors que je suis pas, mais représentant d'une voix palestinienne, donc il faut que je tienne un message. Mais j'ai évité de le faire justement parce que la Palestine n'est pas monolithique aussi, et qu'il y a une diversité de voix divers et variés.
Je reviendrai un peu après sur l'utilisation de certains personnages, peut-être aussi pour élucider certains points de vue ou justement orienter le lecteur s'il ne connaît pas bien le contexte palestinien. Mais je vais demander, pourquoi les deux collines ?
Ah oui, belle. Pour plein de raisons, pour toutes sortes de raisons. En fait, donc ce roman se passe dans ce village, Jabal Ayn, le village des deux collines, qui est un village fictionnel. Donc ça, c'est assez important. Donc c'est pas un vrai village en Palestine, mais il est inspiré de plusieurs villages que je connais. Et en tout cas, ce que j'essayais de faire, c'était aussi de créer un endroit assez féerique, vachement imprégné en fait dans un monde imaginaire où on peut même se demander si on n'est pas entré dans le merveilleux. Du coup, vraiment, on est dans un truc où la réalité n'a pas cours en fait. Et du coup, ces deux collines, sur chacune de ces collines, il y a l'un des lieux les importants de l'histoire. Ces deux collines sont un peu comme des personnages en fait. Enfin, elles définissent un paysage très particulier, je trouve. Et très riche en quelque sorte, parce qu'on dit deux collines et une lectrice ou un lecteur peuvent voir beaucoup de choses. Et ça donne une certaine liberté d'imagination au lecteur aussi, que, enfin, j'espère en tout cas, que j'aime bien.
Alors, votre personnage principal, c'est Faisal. Vous dites qu'il est très en colère. Il se situe en fait entre plusieurs mondes, celui des morts, des vivants, d'une Palestine qui est d'une localité elle-même en voie de disparition, d'un exil, d'un retour.
Tout à fait, oui. C'est le personnage principal donc qui raconte, qui narre cette histoire. Ouais, il est entre plein de binarités, en fait. Et puis, il est bien au milieu. Il est vraiment sur le fil, quoi. Puis du réel et de l'imaginaire aussi. Il est vraiment là, oui, comme un... Comment on appelle ça? Un funambule. C'est ça, c'est un peu un funambule. Et ça le rend... C'est un personnage que j'ai eu du mal un peu. J'ai mis du temps à construire la voix de ce personnage parce que justement, il n'a pas forcément beaucoup de cohérence psychologique. Mais comme nous tous, en fait, on fait des choses sans trop savoir pourquoi on les fait. Donc voilà, il fait des trucs, puis il sait pas trop pourquoi, puis il n'arrive pas à se justifier, puis il rumine, il se répète. Et en fait, l'histoire avance par presque ses propres répétitions. Et il est un peu fou, mais en même temps pas trop. Enfin, donc, c'est vraiment une voix un peu particulière. Je dis qu'il est en colère. Donc souvent il insulte, mais ensuite il y a d'autres moments où il est très poétique, presque précieux. Donc c'est une espèce de polyphonie à partir d'une seule voix en fait. C'est à partir de la voix de Faisal, on fait émerger plein de manières de dire et de raconter un peu différentes, un peu cacophoniques je pense parfois. Enfin, et qui incarne voilà cet entre-deux. Enfin il est vraiment dans un interstice entre plein de, oui comme vous disiez, de mondes différents et parfois opposés aussi.
C'est un peu comme ça permet d'élargir aussi par rapport. Souvent, quand on pense à la Palestine, c'est souvent il y a tout de suite la situation politique, l'histoire lourde, récente. Et c'est une façon aussi d'élargir cette réalité et d'introduire des complexités, que ce soit par rapport au fait d'appartenir à une haute bourgeoisie, un manque d'engagement politique qu'il juge par moments aussi. C'était le but aussi de pouvoir justement, tout en présentant quelque part la réalité palestine, mais l'élargir au-delà de.
Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, je pense, les livres que j'aime lire, souvent, sont des livres qui compliquent les choses. Et parfois même, on se perd, enfin, où il y a une déroute un peu. Et je pense que l'une des richesses de la littérature, c'est de compliquer. C'est de rendre les choses un peu compliquées, de nous secouer un peu. Et ici, effectivement, c'est ce que je disais, donc il n'y a pas de Palestine monolithique. Et justement, comme vous le dites très bien, on a souvent un peu tendance à la réduire. Mais même à la réduire à l'histoire lourde, comme si cette histoire, d'une part, était finie, alors qu'elle est en cours, et d'autre part, était unique, alors que c'est une variété d'histoires avec des impacts sur des êtres humains et des sensibilités, des intimités, des récits très différents. Et forcément, un roman nous permet un peu, justement, voilà, de rendre compte un peu de cette complexité. Effectivement, d'avoir des personnages qui ont des imaginaires et des idéaux politiques très différents. Souvent même contradictoires. Voilà, l'histoire se passe au sein d'une famille de la très haute bourgeoisie palestinienne, avec toutes les contradictions que ça implique. Qu'est-ce que c'est qu'une bourgeoisie sous occupation? Comment est-ce qu'on survit? Comment est-ce qu'on garantit, on maintient une normalité? Ben, on se compromet souvent. C'est normal, c'est ce que fait une occupation. Donc en fait, c'est vraiment voilà, explorer un peu tous les méandres et les coulisses d'une pensée colonisée aussi. Ça aussi, le point important, c'est que on se situe dans une réalité totalement colonisée. Donc, on n'est pas dans le post-colonial, mais dans le colonial lui-même. Et ça crée tous ces personnages aux horizons un peu brisés, mais qui rêvent encore. Et donc, voilà, c'est rendre compte de tout ça à la fois, sans passer par le témoignage, en fait, en passant par autre chose, par la fiction pure.
Et même par l'architecture et la décoration de la maison, il y a le palais, en fait, dont les chambres sont décorées selon divers moments de la vie de l'oncle, c'est bien ça? Et ça permet quelque part de ramener l'exil à la maison, chez soi.
Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ramener l'exil à la maison, c'est bien vu en fait. Moi, en l'écrivant, le livre a émergé entre autres à partir des descriptions. Donc j'avais envie vraiment de décrire des paysages imaginaires, dont donc le palais, le restaurant en face, le village, etc. Enfin, et pour le coup, je les ai décrits presque comme si j'avais des illustrations sous les yeux. Et j'aimerais bien, enfin, vraiment, j'avais trop envie que quelqu'un les illustre parce que je les vois, enfin, je vois leur atmosphère. Vraiment, il y a un truc atmosphérique que j'aime bien. Et oui, ça permet de ramener l'exil à la maison. Et ça fait que c'est un village très palestinien, mais qui pourrait être ailleurs. Et ça m'importe beaucoup aussi que ce qu'ils puissent parler à d'autres situations. Savoir que, bah, par exemple, quand on parle d'exil, oui, il y a des Palestiniens exilés, mais il y a d'autres nationalités qui font l'expérience de l'exil ou qui font l'expérience de la perte de l'indépendance, d'espace, etc. Et j'ose espérer que ça peut aussi parler à d'autres, pas seulement parce qu'ils sont sensibles à la Palestine, mais parce que d'autres sujets les intéressent.
Alors Faisal, il est rentré en fait, il était en exil, il habitait avec quelqu'un et ce quelqu'un vient le retrouver mais il repart pas. Pourquoi?
Je sais pas. Je pense que lui-même ne sait pas justement. En tout cas, la manière dont il commence un peu à raconter son récit, il dit un peu. Donc en fait, il l'adresse à son ancien amant pour essayer de lui expliquer pourquoi il est parti et pour essayer d'élucider pourquoi il ne reviendra pas. Mais il ne le sait pas. Ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est il trouve des arguments, puis il se contredit, puis il raconte un peu n'importe quoi, puis il cherche, puis il sait pas. Enfin, et puis tout s'effrite un peu. Enfin, c'est vraiment tout le roman, c'est un peu lui qui essaie de comprendre pourquoi il reste.
Il y a des moments aussi, des fenêtres où il décrit une harmonie parfaite quand il vient le
Tout à
voir
fait, oui.
et l'amant qui justement semble très familier tout en étant un peu décalé
Ouais.
aussi. On ne sait pas si on juge quand il y a ce décalage ou si
Ouais.
c'est...
Oui, c'est vrai quand son amant vient le chercher, il décrit ça un peu comme si c'était irréel, il se souvient pas vraiment, c'est un peu flou dans sa tête. Et en même temps, oui, il décrit vraiment des moments idylliques. Et lui-même dit, je ne sais pas pourquoi, j'aurais pu. Enfin, il dit, je sais plus comment, mais tu étais venu me sauver. C'est formidable d'être sauvé, mais. Donc il y a vraiment une opacité psychologique de lui à lui-même. Encore une fois, comme nous tous, on fait souvent n'importe quoi. Enfin, en tout cas, pas n'importe quoi, mais des choses dont on ne détient pas une explication discursive, quoi. Enfin, on ne sait pas trop pourquoi on fait beaucoup de choses.
Pourquoi est-ce qu'il a ce rôle si proche et si, en fait, avec autant de jugement avec sa grand-mère aussi?
L'autre personnage principal, protagoniste de ce roman, qui même prend la parole parfois, qui parasite en fait la parole de Faisal, c'est donc le fantôme de sa grand-mère, Nawal. Et eux deux entrent un peu en. En fait, Nawal donc agit dans le roman comme la gardienne des lieux, celle qui garde la maison abandonnée de la famille contre l'envahisseur. Et qui a un idéal de résistance très différent du nihilisme de Faisal. Et en fait, disons, le moteur principal du roman, c'est peut-être un peu le dialogue, la confrontation entre les deux. Et ils se renvoient un peu tous les deux à la figure les contradictions l'un de l'autre, parce que les deux aussi sont pris de plein de contradictions. L'idéal de résistance de la grand-mère est quand même un peu ridicule. Faisal lui dit, une grande bourgeoise qui imagine prendre les armes, c'est quand même drôle. Elle lui reproche des choses vraies, en fait. Pareil, ce petit enfant gâté qui est parti et qui est nihiliste parce qu'il peut se le permettre. Donc, en fait, ça permet d'étudier un peu la transmission d'héritage culturel et politique et l'absence de transmission, enfin, quand elle est coupée, qu'est-ce que ça fait? Faisal, c'est quand même un personnage, disons, contemporain, au sens où il a un peu, je pense, disons, la concentration d'une personne avec un portable, donc il est très fragmentaire dans sa manière de penser, alors que sa grand-mère, elle pense de façon un peu plus.
C'est l'ancienne génération.
Ouais, c'est l'ancienne génération. Elle pense plus long, en fait, elle pense plus loin, c'est différent.
C'est construit.
C'est construit, malgré ses contradictions. Ouais, voilà, c'est construit. Lui, c'est pas construit, c'est vraiment un peu. Et donc, voilà, j'avais vraiment envie de juxtaposer, même pour les explorer. Souvent, enfin, moi, je sais que je réfléchis en écrivant et ça me permet un peu d'explorer ces différentes manières de se rapporter à l'histoire et à la politique, en Palestine ou ailleurs.
Merci.
Merci beaucoup.
Et c'est ainsi que se referme notre podcast Escale avec Karine Katan, en espérant qu'il vous aura inspiré à le rajouter à votre liste de lecture estivale. À bientôt!